Ouais, ils ont des têtes d'affiche. Ah.
Qu'est-ce qu'on déguste, monsieur, dame, la suite? Avec ce soir, le fromage de chèvre à l'honneur, celui de Julien Vol et de... Comment s'appelle votre compagnie ?
Claudia.
Et de Claudia. Donc, Claudia et Julien Vol font ce fromage de chèvre bio que l'on déguste ce soir, que vous pouvez retrouver sur le marché des producteurs de Montauban le samedi matin.
Oui, le mercredi aussi.
Le mercredi aussi. Ouais, tout à fait.
Place de la Lac, Place de la Lac
le mercredi, ouais.
D'accord.
Place de la Lac, c'est même le marché, il est mieux que le samedi. En
à Montauban, Ville-Bourbon, donc. Si les ruténois en veulent, bah, ils peuvent pas. Ou alors ils se déplacent.
Hein. Oui,
ils peuvent venir vous voir à la ferme ou pas?
À la ferme, pour l'instant, on n'a pas installé de vente à la ferme, vraiment. On le fera dans quelques temps, je pense, mais pour l'instant, c'est pas
encore. Magasin bio, non?
Magasin bio, c'est pas impossible que ça revienne à un moment donné, mais on finit d'installer la vente directe essentiellement.
Vous étiez à la MAP Montobio, non?
Oui, tout à fait. Ouais. On a arrêté avec la MAP Montobio.
Ah aussi?
Ouais, voilà.
Mais enfin, pourquoi vous n'arrivez pas à suivre?
On se concentre sur les marchés là du mercredi, du samedi. Il y a une belle clientèle et puis voilà. Après, on a beaucoup d'AMAP, mais plutôt aux portes de Toulouse, Tournefeuille, Saint-Jory, etc.
D'accord. Bon, je creuse pas plus la question.
Et puis, il y a une grosse énergie qui va sur la R&D, recherche et développement pour des nouveaux produits.
Ouais, c'est vrai.
La R&D, parce que là, on parle.
On a pu embaucher une personne hein, sur ce poste-là, d'ailleurs.
Ah, mais c'est énorme. Un budget R&D énorme. Donc tous ces produits-là dont on n'a pas encore parlé, mais voilà, les desserts sucrés, les machins, les trucs, genre tiramisu, des glaces au lait de chèvre, enfin des pouf, ça cogite du côté de Mirabel. Ouais. C'est des perchés. Hein.
Ça fait de la concurrence à la petite ferme.
Non, parce que c'est pas du tout les mêmes produits.
C'est de la vache, la petite ferme.
Ouais, pardon, bien sûr.
Ah, la petite ferme. Quand on parle de la petite ferme, on parle de la petite ferme à Cossade de Nicolas Bessou.
Tessédoux.
Non, Bessou, c'est pas...
Bessou, c'est le boulanger de Saint-Étienne de Tulmont.
Voilà.
Que de bonnes gens, hein, dans ce département.
Bio aussi, mais qui passe presque tout en bio.
Et donc, on va écouter un peu de jazz. Je vais essayer de remettre en ordre un peu tout ça pour qu'on continue de bien comprendre le travail de Julien Vol. Et puis ensuite, tout à l'heure, on passera un coup de fil à Catherine Bourzat aussi, hein, qui donne une conférence dégustation aux sources du thé Voyage en Chine. Ça va se passer à l'abbaye de Belle-Perche ce dimanche après-midi.
Aujourd'hui, j'ai choisi le contrebassiste Christian McBride. Il fait partie de la jeune génération des musiciens de jazz puisqu'il est né en 1972. Bon, il se balade entre la musique classique, le jazz traditionnel, le jazz moderne, le funk. Il a accompagné des musiciens comme Paul McCartney, Sting ou Céline Dion, même James Brown. Bon, dans les musiciens de jazz, il a joué avec les meilleurs, Freddie Hubbard, Michael Tyner, Herbie Hancock, bon, Diana Krall, etc. Là, nous écoutons dans un titre qui est un peu funky, qui s'appelle Car Wash.
Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de vin? Merci.
On passe au rouge.
On passe au rouge, ouais. Merci. On est toujours en bio, là?
Hein?
Toujours en bio?
Oui,
en bio 2014.
Il a une couleur mauve du
rond. C'est bien ça.
On ne trouve plus.
Mais on en parlera tout à l'heure des vins.
Et la couleur qu'avaient les vieux tannins.
Gérard Vallée, domaine de la bouteillerie à Saint-Nicolas-de-Bourgogne.
gotta get a drummer song. Ben ain't had none in a minute. I know you want some. You got to get a little bit.
C'est vrai qu'on a envie d'y être hein, quand on les entend là.
J'arrive à maturité en même temps.
Take as much as you want, baby.
The funky.
Go, baby.
Allez. C'est bien parce qu'en plus t'entends la petite batterie presque carton. On sent que c'est dans un petit club. Hein, c'est,
ouais, c'est au village Vanguard à ouais. New York. C'est enregistré en décembre 2014. Le disque est sorti en 2015. C'est un disque récent de Christian McBride et c'est un enregistrement public et très agréable.
Alors, monsieur, dame, si vous prenez le train en route, sachez que notre invité aujourd'hui, c'est Julien Vol. Il fait des fromages de chèvre bio avec Claudia, pardon.
À la ferme du Patouquette.
À la ferme du Patouquette. C'est une ferme qui est située à Mirabel, en Tarn-et-Garonne. Et il a le toupet d'en vivre avec 30 chèvres à peine, quoi.
On démarre, on commence ouais. à en vivre.
Tu les connais chacune par leur prénom?
Oui, pas loin, ouais. La 30, ouais, ça va. On les connaît toutes plutôt très bien, ouais. Au détail.
Comment ça se passe une journée à la ferme du Patouquette?
Oula, c'est sauvage. Il y a beaucoup de choses à faire, ouais. Donc, on démarre relativement tôt. Relativement, hein. J'attaque la traite à 7 heures. Pendant ce temps, Claudia commence à faire le travail de fromagerie. Bon, elle réceptionne le lait de l'autre côté de la salle de traite. Il y a un mur infranchissable qui sépare la salle de traite et le labo, évidemment. On n'a pas le droit au passage, hein. Pas de porte, surtout là. Et donc, du coup, on attaque vers 7 heures. Pendant que je fais la traite, Claudia reçoit le lait. Et puis, ensuite, elle commence à le travailler directement, quasi immédiatement.
Donc, ouais. Le lait, il sort du pied, il passe dans un tuyau, boum, il va dans la...
C'est ça. Alors, bon, on n'a pas démarré exactement comme ça. On a démarré en traite à la main pendant un an et demi. Et là, effectivement, on triait à la main, on passait au seau, puis dans le pot, puis on passait par une trappe vers le labo, et là, on travaillait notre lait après. Et petit à petit, on a modifié le système jusqu'à cette année, où on a un système de lactoduc, j'appelle ça comme ça.
Un lactoduc.
Lactoduc.
Il faudrait qu'on en parle à Bachar el-Assad. Donc le lait monte directement, enfin, il est filtré ouais. directement en salle de traite. Et puis il monte par un tuyau, puis il arrive dans un réceptacle. Alors, pour l'instant, on est dans des bacs de caillage exprès. Après, on peut avoir aussi un tank à lait qui le réfrigère pour pouvoir travailler tous les deux jours. Donc voilà, donc ça arrive directement en laiterie. Bon, donc
on fait les fromages. Après, on s'en occupe des chèvres. On fait quoi?
Oui, ouais, ouais.
Donc la traite, après, ça dure combien de temps?
La traite, là, on est sur une heure et demie à peu près de traite.
Donc 7h à 8h30. Vous écoutez la matinale de CFM avec Aurélien à l'antenne. Ok, entrez les chèvres.
Ça passe pas à Mirabel.
Non, ça va super bien à Mirabel.
Si, ça passe à Mirabel.
90.7.
J'ai écouté CFM énormément puisque je fais beaucoup de travaux.
Bon, donc tu vois.
Ah ben oui.
Et en suivant,
on a une phase déjeuner avec nos enfants.
Ah,
on les
oui.
amène à l'école. On arrive à faire ça. Et puis après, ensuite on repart au mois sur la partie
élevage.
Pardon,
hop, parenthèse, petit déjeuner, lait de chèvre.
Ah oui,
ouais. Ouais. Eh ben oui.
Forcément, ouais.
Ils vont pas prendre de la brique de Leclerc.
Voilà, donc non, ils ont droit à leur lait de chèvre et ça va, ils assument bien. Nos choix.
Ouais. Donc, parce que c'est fort le lait de chèvre.
Pas
hein,
du tout.
Pas du tout fort.
Pas du tout. Vraiment. Tu vas goûter tout à l'heure. Regarde. Là, les desserts qu'on fait. Mmh. On travaille avec notre lait. Et si on travaille comme il faut, c'est-à-dire si on travaille le lait très jeune, on arrive à, et tu verras, à une très grande légèreté, très grande douceur. Au contraire. Contrairement à ce qu'on croit.
Ah,
okay. Ouais, moi j'ai cru ça aussi pendant longtemps, ouais. Puis il m'a fait découvrir ça l'année dernière.
Bah, moi j'en buvais quand j'étais petit, mais je me rappelle pas. Je sais que c'était différent, je sais que j'aimais ça, mais je me rappelle pas.
J'avais goûté une glace au lait de chèvre à la foire bio.
On pense tous,
c'est pas.
Ah, c'est d'accord, ben voilà.
On pense tous.
C'est vrai qu'il n'y avait pas un goût.
Là, avec une machine à l'italienne. Voilà, une machine à glace à l'italienne.
Ah, ben il y a que. C'est du lait de chèvre, pas du lait de bouc, hein. C'est pour ça que ça sent pas fort.
Est-ce qu'on peut mettre un nuage de lait de chèvre dans son thé?
Oui,
hein,
bien sûr. En fait, je t'assure, c'est vraiment très très doux, contrairement à ce qu'on imagine. Après, ce qui se passe souvent, c'est que les laits, en fait, qu'on trouve dans le commerce, sont des laits qui ont déjà vachement d'âge, quoi. Donc, même sur un lait pasteurisé, nous, quand on livre un petit peu de lait en bouteille à nos AMAP, et c'est vrai que on leur conseille, ils peuvent le conserver pendant 3 semaines s'ils veulent, sur la pasteurisation, c'est possible. Après, l'idéal, c'est de le consommer dans les 3-4 jours pour qu'il ait vraiment, qu'il garde toute cette douceur.
Toutes ces qualités organoleptiques. Alors, pourquoi je demandais si on peut en mettre dans un petit nuage dans le thé? Parce que nous avons au téléphone Catherine Bourza, qui va donner une conférence dégustation à l'abbaye de Belle-Perche autour du thé, aux sources du thé, voyage en Chine, un espion nommé Fortune. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, cette conférence. Catherine Bourza, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Qu'est-ce qu'on déguste. On se rappelle vous avoir reçu en 2009 pour une émission spéciale sur le Nouvel An chinois parce que vous êtes intarissable, vous êtes une spécialiste de.
Vous nous avez dit bonjour Chine, en chinois
et de la culture chinoise. Hein.
Voilà, et puis ses saveurs en particulier.
Et alors, le thé chinois, évidemment, vous allez en donner une conférence ce dimanche. Le thé chinois, c'est la base, quoi.
C'est une conférence un petit peu en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a une conférence à proprement parler qui est autour de ce personnage, donc inouï, hein, qui est un aventurier extraordinaire qui s'appelle Robert Fortune. Si on prononce à la française, mais en fait, c'est un Écossais. Donc, on devrait dire Robert Fortune, et qui va changer complètement la face du thé, si je puis dire. Parce que avant ce personnage, on ne savait cultiver, fabriquer du thé que dans deux régions du monde, la Chine et le Japon. Et pour cette raison, l'Europe, qui avait pris le goût du thé à partir du XVIIe siècle, dépensait des fortunes, envoyait des bateaux, faisait la guerre d'ailleurs aussi entre ces bateaux, pour acheter du thé. Et puis c'est devenu un tel engouement qu'à un moment donné, l'Europe, en l'occurrence l'Angleterre, et plus précisément la Compagnie des Indes anglaise, a voulu briser cette espèce de monopole qu'avaient les Chinois sur la fabrication du thé, et ils ont donc envoyé un espion. Qui s'appelle donc Robert Fortune et qui va accomplir donc une mission ultra secrète, hein, comme tous les espions, qui va vraiment briser l'industrie chinoise du thé, puisqu'il va donc voler le secret de la fabrication, parce qu'on ne savait pas jusqu'à ce voyage qui a lieu au milieu du 19e siècle à peu près, dans une Chine qui est complètement interdite, qui vient de connaître le revers de la guerre de l'opium, qui déteste les étrangers. Et l'histoire incroyable, c'est que cet Écossais, qui est un grand rouquin d'1m80, va réussir à se faire passer plus ou moins pour un prince mongol et à voyager dans la Chine interdite.
Et alors, on m'a dit que le thé en Chine, il y avait eu deux grandes périodes. Finalement, une période où on consommait du thé qui était déchiqueté, et puis ensuite, du thé qui était sous forme de feuilles, en fait, de feuilles séchées. Il y a deux périodes, non?
Oui, il y a une longue histoire du thé, parce qu'on boit du thé en Chine depuis, pour faire vite, les environs de notre ère. Donc ça fait 20 siècles hein, d'histoire de thé, donc c'est vrai qu'il a pu connaître bien les avatars. Et donc effectivement, parmi ces avatars, il n'y a pas thé déchiqueté, c'est plutôt qu'il est broyé, c'est-à-dire que jusqu'au Moyen-Âge, le thé était essentiellement étuvé et puis ensuite pressé sous forme de galettes ou de briques. Pourquoi ? Parce que comme ça, on pouvait le faire, d'abord le garder facilement, il était stabilisé, et puis il pouvait voyager, donc il partait avec les caravanes sur les routes de la soie en direction du plateau tibétain, et il était plutôt considéré comme un légume. Et pour préparer ce thé, il fallait casser, broyer ces galettes ou ces briques de thé compressées, et on préparait donc une espèce de soupe avec ce thé, des oignons, des poireaux, du gingembre, des aromates, et ça faisait quelque chose d'assez roboratif. Et c'est à partir du 8e 8e siècle environ, que va se développer donc un thé plus fin, qui sera plus un thé de soupe, mais un thé dégusté pour lui-même. Et c'est à partir de cette... donc c'est vrai qu'il y a un petit peu une césure dans le temps à ce moment-là.
Parce qu'il y a, une loi qui est imposée par un empereur ou quelque chose comme ça. Hein.
Alors ça, c'est encore un peu plus tard, même beaucoup plus tard. C'est au 16e siècle, hein. Un empereur de la dynastie des Ming qui va donc décréter que, pour un tas de raisons, hein, que le thé ne sera plus du tout vendu sous une autre forme que celle qu'on connaît aujourd'hui du thé en vrac. Hein, c'est-à-dire le thé qui n'est plus du tout compressé, qui est en vrac, et qui nécessite donc, pour être infusé, l'utilisation d'une théière qui va donc se développer en tant que vaisselle à partir de ce moment-là. Donc ça, c'est un autre âge du thé dans ses formes. Parce qu'après, il y a aussi tout un arc-en-ciel de thé. Hein. Il y a énormément de manières de transformer la feuille de thé qui aboutissent à toute une palette de goûts du thé avec des très jolis noms, exactement comme à partir de la vigne, on arrive à tirer quantité de saveurs de vin différentes. C'est un peu des histoires comparables.
Alors, ça démarrera à 15h, hein, votre conférence, et puis ce sera suivi d'une dégustation à 17h. Vous nous apprendrez à prendre le thé, à servir le thé, parce qu'il y a tout un cérémonial. Hein, c'est pas uniquement le thé, c'est pas juste le goût, c'est pas juste l'infusion elle-même. Il y a aussi les gestes, il y a aussi voilà tout ce qui va avec. Hein.
Le plaisir de boire du thé.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler sur CFM Radio, Catherine Bourzin. Rendez-vous donc ce dimanche 24 avril à l'abbaye de Belle-Perche pour cette conférence et dégustation aux sources du thé, voyage en Chine d'un espion nommé Fortune. Merci à vous.
Avec plaisir. Au revoir.
Avec quoi on trinque là ?
Alors là, on va reparler des vins, effectivement. On a commencé avec du blanc tout à l'heure, avec un tchakoli. Le tchakoli, c'est le vin du Pays Basque. C'est un blanc légèrement bulleux, comme on peut l'avoir dans le Gaillac.
Hein. Très peu.
Oui, perlé.
Ça fait 11,5. Et on ne le trouve que dans le Pays Basque, français, espagnol. Ailleurs, tu peux en demander. On n'en trouve pas. Ça s'exporte pas. Ça se boit sur place. Mais bon, moi, chaque fois que j'y vais, je vais m'acheter quelques bouteilles. C'est basque. Voilà, les tchakoli basques.
Ça étonne, c'est surprenant.
C'est
un placard.
Celui-là, il est de Zarautz. Et ensuite, donc ça, c'est bio. Mais c'est pas marqué dessus. Et on continue pour faire honneur à nos fromages de chèvre. J'ai choisi un Saint-Nicolas de Bourgueil qui s'appelle La Croissée chez Gérald Vallée. Donc, là aussi, un 2014 biologique, raisin vendangé naturellement, trié grain par grain, élevage dans des fûts ou des foudres de chêne, etc. Pas de désherbage.
Très fruité. Voilà.
Un très bon Nicolas de Bourgueil, quand c'est bien. Là, je le recommande, Gérard Vallée, domaine de la Cotellerie. Alors ça, je l'ai trouvé à la foire au vin de chez Sedona. Sedona, oui.
Le nouveau magasin bio
de la zone de Sapiac. Alors, il y a une petite foire au vin. J'ai goûté certaines choses et ça, je vais revenir en chercher parce que c'est vraiment intéressant. Ça doit valoir, c'est dans les 10 balles, hein, entre 9,80 et peut-être 10,50, un truc comme ça. Mais pour un Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est très très bien et c'est un vin qui est quand même très propre par rapport à toutes les saloperies qu'on peut boire de Nicolas de Bourgueil. C'est dommage.
Est-ce que tu peux me mettre sur ce morceau de pain un demi cabécou, par exemple?
Hein? Tu veux quoi? Tu veux plutôt affinage là?
Je sais
plus
pas.
Plus sec, plus crémeux.
La moitié qui est là, ça serait bien. C'est déjà du crémeux.
Un demi, regarde. Allez. Magnifique.
Merci. C'est la semaine dernière qu'on parlait du Rocamadour. C'est un cabécou, le Rocamadour. Hein, sauf qu'il est.
Il y a un AOC particulier.
C'est un AOC, ouais. C'est quoi?
AOP.
AOP, oui. C'est le terroir, en fait, qui est revendiqué. Hein,
oui, complètement. Après, avec un cahier des charges aussi dans la façon de le fabriquer, dont je ne vous parlerai pas parce que je ne le sais pas. Vu que ce n'est pas moi qui fais du fromage chez moi et que c'est Claudia, donc elle en parlerait certainement mieux. Mais voilà, je sais qu'il y a un cahier des charges assez strict qui fait, en fait, la particularité de leur fromage.
Oui, parce qu'il faut que ce soit un peu comme le raisin de Moissac, le Chasselas, c'est millimétré, quoi. Hein. C'est-à-dire, par exemple, il y a bien sûr dans la fabrication, mais aussi dans la présentation. Donc, le cabécou, il doit avoir tant de haut, tant de circonférence, tant de trucs. Attends, c'est
la couleur,
oui,
le taux d'humidité,
complètement, ouais, le vieillissement, puis l'ensemencement, je pense aussi, il y a un ensemencement qui doit être particulier.
Qu'est-ce que c'est que l'ensemencement?
Alors, donc, quand on travaille le lait, donc après l'avoir récolté, ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Après, on le laisse mûrir pendant 2 heures à peu près. Voilà, avec du petit lait.
Le temps du petit déjeuner avec les enfants.
C'est ça. On déjeune 2 heures par matin. Quel beau métier. Et donc, on laisse mûrir le lait avec le petit lait. Et ensuite, au bout de 2 heures, on l'ensemence avec de la présure.
D'accord.
Après, c'est un peu comme pour les yaourts, l'ensemencement est différent. C'est des types de bactéries qu'on donne au lait et qui, des bonnes bactéries qui permettent, en fait, de travailler différemment suivant ce qu'on apporte.
C'est une présure qu'on fabrique soi-même, qu'on entretient ou qu'on achète?
On l'achète en matériel de fromagerie, hein. On a toute une panoplie, là, de choses qu'on peut acheter.
Alors, est-ce qu'il y a, comme pour les Beaujolais, est-ce que tu peux avoir un présentement avec goût citron, goût vanille, goût mousse, etc.
Non, après, il n'y a pas une gamme de présure trop étendue.
Ça donne pas, c'est pas ce qui va donner le goût à ton fromage.
Ça peut, quand même. Il existe des présures organiques, on va dire, et puis après des présures végétales. Donc, qui effectivement modifie légèrement le goût des fromages. Alors, ça va bien, certaines vont bien sur certains fromages. On a essayé diverses choses. Et sur les nôtres, on reste sur la présure classique.
Parce que, qu'est-ce qui donne le goût au fromage?
Eh bien, déjà, c'est la base. Le produit de base, le lait.
Le lait.
Complètement, le lait. Donc, ça veut dire ce que mangent les chèvres. Mmh. Déjà, l'alimentation, bien sûr. Puis leur.
Moi, je suis plus discret dans les fromages.
On est
très accompagnés, là.
Ah, ça recommence, moi, parce que moi, ils n'ont pas compris le premier coup, là. Donc, j'ai toujours deux coups.
Vous savez ce qu'on va faire? On met entre parenthèses la conversation qu'on avait là. On fait.
Moi, mon portable est silencieux.
Ah, bravo!
Quand même. Est-ce que tu continues à jouer du piano?
Oui, un petit peu. Ouais.
Tu donnais des cours?
Oui, complètement, ouais.
Prince, je parle du piano aussi parce que Prince était un excellent pianiste et sa prochaine tournée devait être juste un piano-voix. Et malheureusement, il n'aura pas le temps de le faire.
On a des traces de cette tournée qui n'aura pas lieu. Il y a des enregistrements, des préparatifs ou...
Non, mais il a fait des enregistrements avec juste piano-voix, justement.
Ah ouais.
Ça peut être
J'écouterai ça.
Écoutez. C'est le terme génie musical et galvaudé aujourd'hui. Il y en a bien un qui pourrait revendiquer ce titre. C'est Prince. Il a réussi à réunir la musique blanche, la pop, grâce à ses mélodies, et la musique noire, soul, jazz, funk, grâce à son groove inné. Depuis 1978, il a sorti plus de 30 albums officiels. Il a expérimenté plein de styles musicaux. Il a réalisé un nombre de concerts innombrables. C'était soit immense avec une foule énorme, soit intime avec des concerts surprises et privés qui créaient l'événement. Il a vendu quand même plus de 90 millions de disques. Que Prince est aussi un monde à part avec sa cour, son manoir, le Paisley Park à Minneapolis, une immense structure qui héberge studios et salles de concert. Un vrai artiste, excellent musicien, multi-instrumentiste, il jouait plus de 15 instruments différents. Un bourreau de travail, un innovateur, il a été parmi les premiers à distribuer sa musique via Internet. Et j'ai suivi sa carrière surtout lors des années Love Sexy, Around the World is a Day, et bien sûr l'immense double album Sign of the Times, dont on écoute le morceau éponyme, Prince.
Et pendant ce temps-là, on reçoit sur Facebook un message de Pierre-Laurent Cantegrel. Des présures au goût fromage, c'est bien déjà.
J'avais peur qu'il fasse un jeu de mots sur Prince de Lui ou un truc comme ça.
On a dit qu'on les pendait, les mecs qui faisaient des jeux de mots sur Prince de Lui.
Voilà.
Ah oui, puis il y avait aussi Dessine-moi un Motown. On va monter le son quand même un petit peu.
Ça, c'est très bien, moi, du rouge sur du fromage de chèvre. Sans souci. Très bon, il est bon, je vais venir. Je vais repartir en rechercher parce que.
Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it. And it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Ship explodes and everybody still wants to fly. Some say man ain't happiness, man truly dies. Oh, time. Baby, make a speech, Star Wars fly. Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn? Time.
Prince, issu de son double album Sign of the Times, sorti en 1988. Un bel exemple de son talent, un mélange funk, un peu électro, de belles mélodies. Prince.
Combien il mesurait ?
1m60. Et il mettait des talons de 10 cm de haut, voire 15.
Mais il est sorti avec un tas de femmes.
Bien plus grande.
Bien plus grande, mais très nombreuse.
Quand t'as vendu 90 millions d'albums, voilà.
Ça aide.
Ça aide, tu peux tout te permettre.
Je sens une pointe de jalousie chez vous, je sais pas pourquoi.
Ah oh, bah écoute, on ne reste pas néanmoins des hommes.
Le dessin de presse que j'ai vu passer concernant Prince, qui m'a beaucoup plu, c'était le petit Prince, donc, qui va voir Saint-Exupéry, qui lui dit, dessine-moi une Motown. Voilà, je trouve ça bon, voilà. Bon, dites donc, on fait un jeu. Vous avez vu qu'on a laissé tomber les infos, mais parce qu'on en a marre d'entendre des tristes nouvelles, donc on a dit qu'on les lâchait. On vous pose des questions maintenant au 05 63 930 020.
Et si vous nous appelez de suite, on vous pose quoi, 3 questions, c'est ça?
Oui.
3 questions et vous repartez avec un très beau couteau collector siglé CFM. Hein,
très très beau.
C'est un Montalba de l'artisan coutelier Kermark qui est situé dans le Tarn-et-Garonne, à la frontière du Lot et du Tarn-et-Garonne, qui a son atelier là-bas. Il fait des Montalba, il fait des Cossadés, il fait plein de très très beaux couteaux.
Hein? Georges, corne de mammouth.
Georges, toi qui es amateur de...
De couteaux, j'en ai déjà 2 ou 3 de chez lui qui sont très bien.
Et voilà. Et vous...
05 63 930 020.
Pardon, c'est quoi le numéro de téléphone?
05 63 930 020.
Voilà, vous gagnez ce très beau couteau et vous gagnez éventuellement aussi, peut-être avec, si on est sympa, si on est gentil, si on a envie, des places pour des concerts du Festival Alors Chante de Castelsarrasin. Hein? Allez, par contre, il faut vous manier 05 63 930 020. Quelques infos pendant ce temps-là.
Oui, ben, des infos locales et de saison. Qu'est-ce qu'on a demain et dimanche? On a un petit festival qui s'appelle Rootstock, qui est au domaine Cosmarine à Vieux dans le Tarn. Vieux, ça se trouve grosso modo entre Castelnau de Montmiral et Cahuzac-sur-Vair. C'est pas très très loin. Il y a de la bouffe.
On est dans le Tarn.
Il y a de la bouffe avec la fromagerie Le Pic et puis des conserves. Il y a de la musique. Nous, on y va aussi pour ça. C'est Azad Lab qui est samedi et les tire-bouchons dimanche. Et puis, il y a surtout d'une belle, très belle dégustation, le glou-glou. On va pouvoir goûter du domaine Milan, des vins de chez Piton Paillé en Anjou, la Grange Tiffen. La Loire, la Colombière, c'est ici en Fronton. On va voir Gilles Azam, des domaines des Hautes Terres en Limoux, excellent à voir. Le Mas de Libian, Château Révelette et le domaine Padier. On boit tout ça demain. Et puis vous avez aussi Vinex Plaisir, si vous avez encore soif. Le dimanche 24 avril à Agen, de 10h30 à 18h30, dégustation avec 32 vignerons. Plaisir du vin Agen, c'est la ZAC Agen Sud. Vous sortez de l'autoroute, c'est à droite, là, vous y êtes de suite. Sinon, c'est sur plaisirsduvin.com. Vinex Plaisir, dimanche 24.
On vous attend toujours au 05 63 930 020 pour un quiz super simple, hein, pour vous filer des cadeaux. Pendant ce temps, on reprend notre conversation avec Julien Vol.
Il est là.
Alors, l'avenir, c'est quoi, Julien Vol?
Parce que alors,
vous avez alors, décidé de
Jean-Pierre
vous...
Marielle. Alors, l'avenir. Ah, moi, je vais te le dire, l'avenir.
Alors.
Comment je le vois, je vais te le dire.
Alors. Et ouais.
Non, l'avenir, bon, ben.
Tu as un salon piano bar,
non,
que...
ouais, exactement.
Non, mais il faut être militant, il faut avoir envie de vivre sa vie. Il y a plein de gens qui n'osent pas quitter le système comme vous le faites à un moment, pour décider d'être les acteurs de votre propre vie, comme vous l'avez entendu. Il faut un certain courage pour pouvoir faire ça. Une certaine organisation aussi, hein, quand même.
Mais c'est loin d'être des branleurs, hein, là.
Mais non, mais tu peux pas être branleur quand tu fais ça. Non,
impossible. Ouais,
non, mais voilà. Il y a l'image de ce truc babage troll à Saint-Giron qui va vendre du fromage de chèvre en fumant des joints. Mais ça peut pas marcher, quoi. Tu peux pas élever ta famille.
Oui, il y a quelque chose à assumer.
Comme pour les chèvres, il faut que l'herbe soit bonne.
À peu près.
Oui. Oh, bravo.
Et voilà. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose de l'entreprise, hein, quand même, hein, malgré tout, hein, qu'on le veuille ou non. Donc c'est vrai qu'après, tu arrives avec une image un peu typée de ce que tu vas avoir envie de faire. Mais bon, le projet tel que tu le voudrais, tu vas pas le réaliser dans les premiers instants. Forcément, il faut aller vers ce projet.
Le temps que ça mûrit.
C'est quoi ce projet?
Voilà, alors, bon, un peu de pépette, etc.
Après, il faut installer effectivement économiquement
le projet.
Action,
c'est,
quoi,
c'est 3000 vaches, 3000 chèvres, voilà. 15 salariés. Et
voilà, on
a pas.
C'est ça. Et bon, même ça marche pas en fait. Et donc voilà, ouais, non, l'idée c'est de rester sur cette structure très familiale, de toute façon, et de rester sur un tout petit troupeau dont on valorise bien le lait, en faisant une palette de produits qui soit le plus diversifié possible, et de la vente directe au maximum.
Et une grosse R&D, tout à l'heure j'en parlais,
voilà.
Recherche-développement sur des nouveaux produits, parce que ça, faire du fromage de chèvre, tout le monde sait plus ou moins bien le faire, t'en trouves
moi,
partout.
Moi je sais pas. Hein.
Ouais, moi non plus, mais... bon, il y en a qui savent faire ou qui essayent de savoir faire. Donc ça, mais par contre, ça là, ce qu'on a là ici, là, les bocaux, les machins, les trucs comme ça.
Tu peux en ouvrir un ? Qu'est-ce qu'il faut
ça,
ouvrir ?
C'est
vas-y. Bah, tu peux prendre ça. C'est des panna cotta au lait de chèvre. Ouais.
Panna cotta au lait de chèvre.
Donc, ah ben, j'ai cru que ça ferait pop, ça n'a pas fait pop.
Ouais, c'est pas pop.
Non, c'est pas stérilisé.
Non, c'est pas stérilisé.
Ah, ça sent bon, par contre. C'est dommage qu'on n'ait pas encore l'odorama à la radio.
Et donc ça, c'est vanillé sucré. Donc on travaille le lait extrêmement jeune. On le travaille immédiatement, dès la récolte, dès qu'on le prend. Et on le vanille, on le sucre et on le fige à l'agar-agar. Donc ça, c'est un lait qui est figé à l'agar-agar.
Ah, il n'aime pas l'agar-agar.
Si, j'en ai à la maison de l'agar-agar. Non, je n'aime pas l'agar-agar bio, parce que l'agar, et on te vend dans les magasins bio de l'agar-agar dit bio, ouais, qui n'est absolument pas bio, puisque l'agar-agar, c'est une algue qui pousse dans la mer.
Oui, c'est du marin.
La mer, par essence et par nature, il y a plus de saloperies encore dans la mer que sur la terre. Donc, l'agar-agar bio, ça n'existe pas. Il y a de l'agar-agar.
Après, le choix par rapport au gélifiant, si tu veux, c'est qu'on est parti plus sur l'agar-agar, parce que déjà, au niveau gustatif, c'est beaucoup plus doux. Beaucoup plus léger.
Ah, c'est complètement neutre, c'est une gélatine, voilà, qui est complètement
Très neutre et donc qui apporte pas en fait le côté en bouche qui peut être très très gras des gélatines animales. Et voilà, donc c'est un peu pour ça quoi, pour avoir un produit justement très très qui garde cette douceur du lait quoi.
Et puis avec une mâche qui soit entre la mousse et la gelée.
Oula. Ouais, c'est une sorte.
Oula, il a gobé ça. Il a gobé son.
Apparemment, il aime.
Alors là, oui.
Comme les gosses font avec Flambis.
Tu vois, ça, c'est au lait de chèvre. Est-ce que c'est bon le lait de chèvre?
Est-ce que c'est doux le lait?
Non, c'est bien, c'est doux. C'est même léger. C'est même effectivement
très très léger.
Ça fait penser à quelque chose. C'est très très léger. Olivia, pas du tout. Véronique, bonjour, Véronique.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Ben ça va et vous?
Ben écoutez, ça va plutôt bien. Écoutez, on est bien entouré. Est-ce que vous connaissiez la ferme de Patouquet?
Non, pas du tout.
Bon. Mais ça tombe bien parce que il va y avoir une question dans le quiz. Vous allez, ma chère amie, jouer pour remporter un très beau cadeau puisqu'il s'agit d'un couteau de chez Kermark. Un Montalba siglé CFM, un collector, hein, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a une dizaine, je crois, qui sont siglés comme ça.
Ah oui.
Ce sera pour quoi? C'est pour vous ou c'est pour offrir?
Ah non, c'est pour moi. J'en ai déjà offert, mais moi, j'en ai pas.
Ah. Ah, mais vous connaissez les couteaux de Kermark, en fait, c'est ça?
Ah oui, je les trouve magnifiques.
Vous avez pas une histoire avec lui parce que la dernière gagnante, elle avait des histoires avec Pierre Marc.
Oui, elle a dit, ça fait trois mois que j'attends des couteaux qu'il doit m'emmener.
Voilà, on se fait engueuler quasiment.
Bon, tout va bien.
Et oui, ça va, ça va.
Alors c'est parti. Vous êtes prête?
Oui, je suis prête, ouais.
Les fromages qu'on déguste depuis le début, les fromages que nous a apporté Julien Vol de la ferme du Patouquet. C'est des vaches, des chèvres ou des brebis?
Oh là là.
Il est producteur de chèvres, de vaches ou de brebis? Julien Vol avec Claudia.
Alors. Des chèvres.
Ouf. Ah,
vous avez fait peur quand même.
Mais vous avez écouté l'émission ou pas?
Et bien, pas tout à fait aujourd'hui.
Et voilà.
Pas tout à fait.
D'une oreille.
D'une oreille.
Pas à la maison.
Ah.
Faut être indulgent.
Ouais.
Non, mais on aide aussi beaucoup. Deuxième question.
J'ai oublié le prénom de la dame, c'est pour ça.
Véro.
Pardon.
Véro.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Véro?
Je ne travaille pas.
Eh ben, écoutez.
Pour moi, je fais du pain.
Ah, vous faites du pain? Ah!
On vous a vu chez Pierre Gembal.
Je me rappelle, elle nous a apporté du pain à la foire bio. Vous avez apporté du pain à la foire bio, non?
Mais non, chez Pierre.
Chez Pierre, oui, d'accord.
En pub?
Bah, je mélange tout, moi je perds la mémoire.
Hein. Mélange tout en ce moment.
C'est à force de déguster, ça.
Ouais, faut faire attention quand même à la dégustation. Hein.
Avec modération, toujours, Véro, toujours. Qui c'est qui n'a pas su faire avec modération et du coup il est mort hier? C'est Prince, c'est James Brown ou c'est Michael Jordan?
Ouais, Prince.
Ouais, bah oui. RIP, comme on dit, non?
Rest in peace, ouais.
RIP.
Propose un P.
Ah, c'est ça.
Attends, hein, pour pas le savoir, hein.
Bah ouais, ça effectivement.
Ça quand même.
Non mais
on va passer à côté.
Et merde, j'aurais dû être Prince en fait.
Attention parce que c'est là où tout va déraper, Véro. C'est là où vous allez vous vautrer.
Mais non.
Ah.
C'est sur cette question que adieu vos vaches cochons et
couteaux de Kermark.
Et couteaux de Kermark. Combien y a-t-il de chèvres sur la ferme du Patouquet de Julien et Claudia Vol? 30, 1000, 5000.
Je peux pas avoir un indice par là?
Julien est invité dans Qu'est-ce qu'on déguste? Ça, c'est l'indice. 30, 1000.
3000. Donc, c'est pas industriel.
5000, 5000.
Qu'est-ce que j'ai dit?
30, 1000, 5000.
Voilà.
Au minima.
C'est de propriété familiale.
C'est une petite exploitation.
Ah, c'est une petite exploitation. Très petite.
Ferme. On ne dirait même pas exploitation, on dira ferme.
30.
Ah, vous êtes sûr. Bravo. Vous êtes sûr. Véro, c'est votre dernier mot.
C'est mon dernier mot, Jean-Pierre, oui.
Vous avez bien mérité le couteau, là.
Je pense qu'elle a été valide et que, voilà, elle n'avait pas écouté l'émission ou elle n'a pas entendu ça, mais elle a gagné. Bravo.
Il reste une question. Le Patxaran, c'est un vin d'Espagne, du Pays Basque ou de, d'Alsace?
Ah. Il adore les jeux,
il
veut
tous nous piéger, en fait.
Hein?
Une blague?
Non, c'est pas une blague, hein. Est-ce que c'est un vin du Pays Basque? Est-ce que c'est un vin du...
Non, mais parce que Georges, il veut le couteau, c'est pour ça qu'il veut la faire.
Vous avez remporté le couteau
de Pays
Basque.
Bravo.
Merci.
Avec plaisir, Véro.
Quand vous allez faire le marché, Véro, vous allez où? Quel marché des producteurs?
À Caussade.
Oh, bah, à Caussade, pardi.
Le lundi, à Caussade.
Ah, il est bien.
Ah oui.
Très bon marché.
Ouais.
Très beau.
Très, très bon marché.
Il y a des bons producteurs, des vrais.
Il y a des bio un peu ou pas?
Bah oui.
Bon, je sais pas.
Vous le ferez peut-être
pas, ça, pas le...
Il n'y a pas assez
vrais,
de marché.
Ils mettent pas l'étiquette bio, mais c'est du vrai.
Ah, ils mettent pas l'étiquette bio, nous dit Véro, mais c'est des vrais.
Bah oui, il faut les connaître.
Bon. Vous allez, est-ce que vous allez boire une mousse chez Pierre, chez Pierre Guimbal ce soir, au,
comment ça s'appelle? L'Irish Pub.
Oh, l'Irish Pub. Oh, l'Irish Pub.
Ouais, peut-être, ouais.
Je crois qu'il y a un concert.
Hein? Ouais,
est-ce qu'il y a un concert ce soir?
Bon, ben vous l'embrassez de notre part, d'accord?
Ouais, ça marche.
Merci Véro d'avoir joué avec nous.
Et bravo! Quel beau.
Et merci encore, sa femme.
Ah, bon, avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Où est-ce qu'on en est? On n'a plus de vin.
On devait faire un petit questionnaire gourmand. Parce
que un questionnaire gourmand.
On peut écouter un peu de jazz en attendant ou pour le questionnaire gourmand?
Un tout
gourmand.
Petit peu de jazz pour préparer le questionnaire gourmand et après, voilà. Mais un tout petit peu. Hein. Allez.
Là, Chris and My Bride, qui est la jeune génération des...
Non, mais articule des... aussi quand même.
Ça devient dur.
C'est le dentier, il a le dentier indépendant.
Un enregistrement public au village Vanguard à New York. Il a été accompagné par Christian Sand au piano, Ulysse... Owens à la batterie. Et là, nous l'écoutons dans un standard qui est même un traditionnel du jazz, puisque c'est Dambau, The Riverside.
Yeah.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta cuisine? Alors, oui, qu'est-ce qui ne manque jamais dans ton frigo? Et si tu partais sur une île déserte, alors qu'est-ce que tu emmènerais avec toi?
Attention, là,
plutôt du sel ou plutôt des piments? Qu'est-ce qu'ils mangent tes enfants au petit-déjeuner?
Celles qui ne comprennent jamais.
Préparons.
Qu'est-ce que tu fais,
j'aime ça.
Et la bourre, j'ai ça. Ouais. J'ai honte, mais j'aime ça.
J'ai honte, mais j'aime ça. Pardon. J'ai honte, mais j'aime ça.
Ah, dis quoi? Pardon? Ah, le fromage.
thème que tout le monde connaît dans Bowser Riverside.
Down by the Riverside.
On peut manger le zeste. Est-ce qu'on peut manger le zeste
ah,
au
oui.
citron?
Ah, tu peux le manger.
Ah, mm. Riolé au zeste au citron.
On vient de s'envoyer un riolé au caramel et un riolé à cannelle citron.
Au lait de chèvre.
Et au lait de chèvre, toujours.
C'est digeste le lait de chèvre.
Ah oui.
C'est moins gras. Moins de matière.
Moins gras, c'est vrai.
Ça. Ah, ouais.
Beaucoup de gens qui font de l'intolérance au lait de vache, pas au lait de chèvre.
Ah voilà. Bon, c'est plus digeste.
Ah oui. C'est plus digeste, oui, complètement. Puis les, bon, après techniquement, c'est une question de lactose, de type de lactose en fait, qui est apparemment plus digeste dans le lait de chèvre que dans le lait de vache. Voilà.
Vous vendez le lait juste comme ça pour consommation?
Non.
Pourquoi?
On a passé en fait justement deux productions pour pouvoir le vendre au litre, quoi. Ou alors il faudrait le sortir à un prix inabordable. Donc du coup, on transforme tout et on travaille notre lait sur les produits sucrés, sur les laitages et sur les fromages.
D'accord.
Parce qu'à la ferme du Patouquet, quand il n'y a plus de lait, il n'y a plus de fromage.
Et voilà.
On ne l'a pas vu, là, il est, le dernier marché où il soit venu, c'est au mois de novembre
Non, décembre, jusqu'en décembre.
Décembre,
ouais.
Et après janvier, février, mars, on ne le voit plus. Pourquoi? Parce que là, les chèvres, elles ont mis bas. Et le lait, ça sert à élever les chevreaux. Donc on peut pas faire, on peut pas les chèvres, on peut pas leur faire pisser.
Ça veut dire que pendant 3 mois vous foutez rien?
Exactement.
C'est important, Mio, ça c'est le respect des cycles de vie et qui marche très bien. Ouais, parce que les chèvres, ils s'en sortent pas.
Après il y a des méthodes qui existent, mais sur des plus grands troupeaux effectivement. Sur des plus grands troupeaux, tu peux avoir 2 troupeaux en un et donc désaisonner une partie de ton troupeau. Donc tu te retrouves avec toujours du lait dans les périodes creuses. Voilà, mais il faut avoir un troupeau qui
conséquent.
Fasse au moins 3 fois le nôtre, quoi. Et bon, nous c'est pas notre objectif non plus. Donc du coup, on a du fromage jusque début janvier. Les fromages stockés jusque début janvier qu'on continue à affiner qui sont du de la fin du mois de décembre. Et après on reprend après les naissances. On a eu nos naissances cette année le 7 mars. Et du coup, il nous faut à peu près une quinzaine de jours après le 7 mars. Pour pouvoir représenter un fromage cohérent, quoi, qui avec un travail d'affineur, etc., quoi.
Donc le respect des cycles de vie de l'animal, c'est quand même important pour la qualité du produit.
Vous êtes quand même super fragile avec vos 30 chèvres, c'est-à-dire que s'il y a une maladie demain, s'il se passe
mais
un
truc...
Mais il t'emmerde.
Non, mais... On n'est pas fragile parce qu'on n'est pas endetté.
Oui,
voilà, c'est tout. Si tu rentres dans le système, là où tu vas te casser la gueule, c'est si tu as un pied dans le système et un pied en dehors. Ou 2 pieds en dehors.
Bon, je voulais qu'il me réponde là-dessus avant qu'on lui pose les questions. Allez. Il nous reste que 3 minutes.
Bon, allons-y.
Vous vous sentez fragilisé ou pas?
Non.
Ça vous fait peur? Il y a une angoisse de se dire, tiens, si mon troupeau est malade, j'ai plus de revenus finalement.
Oui, c'est sûr. Bon, c'est évident que oui, il peut y avoir un gros problème et ça se présente assez régulièrement en fait. Donc ça fait partie en fait des choses qu'il faut intégrer dans ce qu'on fait. Chaque année, effectivement, on a des petites périodes de blanc complet où effectivement on peut pas travailler pour des raisons XY. Hein. Le fromage sort pas bien, donc on le réserve, on l'envoie pas chez les gens, quoi. Voilà.
C'est gentil de pas nous empoisonner.
Exactement. On vend pas de la merde à la ferme du poisson.
C'est même pas une question d'empoisonner ou pas. C'est même quand la qualité est vraiment trop en dessous de ce qu'on veut, on peut pas le sortir, quoi. À certains moments, on le sort pas, tout simplement. Et après, effectivement, il peut y avoir de gros problèmes sur un troupeau et ça arrive régulièrement. Donc il faut l'entendre et savoir que ça existe et l'intégrer. Bon, si on l'intègre pas, c'est sûr qu'on balise.
Allez, c'est l'heure du questionnaire gourmand. Et on commence par la question que personne jamais ne comprend.
Eh ben, je vais pas répondre.
J'ai honte, mais j'aime ça.
Oula, donc on parle bien d'alimentation. Hein.
Oui.
Non, mais je voulais savoir.
C'est pas des points sexuels qui nous intéressent, c'est dans le frigo.
Non, mais je parlais pas de sexe.
Dans la gamelle.
Je parlais de la télévision, des trucs comme ça. J'ai honte, mais j'aime ça. Là, je cherche. Effectivement, je vois pas de réponse.
Tu vois, par exemple, Rémi, c'était le ravioli dans la boîte de conserve.
Dégueu.
Moi, j'aimais bien les carrés de poisson,
les poissons panés.
Voilà, le fin du, ce machin, voilà.
J'aime bien les frites à sapiac.
Voilà.
Ouais.
Bravo.
Non, là, je vois pas.
T'as pas de. Bon, non, bref, dans ton frigo, il y a toujours quoi?
Elle est toujours foireuse, cette question.
Dans mon frigo?
Oui.
Moi, il y a systématiquement, effectivement, notre lait du matin, là. Et puis après, au-dessus, dans le rayon au-dessus, tu vas avoir quelques légumes de collègues là qui travaillent pas mal.
Qui fait la bouffe chez vous?
Ouais, ça se partage pas mal, mais d'accord. Ça c'est un partage un peu inéquitable parfois, c'est un peu moi quand même.
D'accord, c'est toujours toi.
En fait, c'est tout le temps moi, ouais.
D'accord. Bon, elle fait le fromage.
Non, j'exagère. Un petit peu elle, mais beaucoup moi quand même.
Il fait des salades de fromage.
Autre question gourmande.
Vous faites des pizzas 4 fromages?
Des pizzas 4 fromages, non. On fait un truc qui est terrible. C'est des bruschetta. Tu sais, tu prends du pain, grosse miche de pain, là, tu tranches. Tu fais une bonne petite sauce tomate. Tu mets du fromage de chèvre dessus. Tu fais griller au four et ça te remplace une pizza en 2 secondes. Et c'est très bon.
Merci infiniment, Julien Vol, d'être venu ici nous présenter
merci à vous, hein.
Votre travail, la ferme du Patouquet.
Marché des producteurs de Montauban le samedi et marché des producteurs de Montauban de la Salac le mercredi.
Voilà, je dois dire qu'on a dégusté ça avec mon pain préféré qui vient de chez Carmona. C'est un verracois extraordinaire. Moi, j'adore ce pain.
Ça va très bien avec le fromage. C'est pas bio, mais enfin bon.
Bah non, c'est pas bio, mais bon, écoute.
On s'en fout. Hein.
Un petit peu de poison.
On s'en fout. Hein.
Avec modération.
Est-ce que nous sommes bio, nous?
Absolument pas.
À nous regarder, non.
Non, mais si les industriels s'étaient pas trop foutus de notre gueule, on pourrait aller encore bouffer des trucs industriels, mais là, c'est plus le cas. Non,
ouais.
Non.
Là, c'est le bordel. Hein.
Ah, ça fout la gerbe. Hein.
Ouais. C'était transatlantique. Transatlantique, la viande aux hormones qui va arriver du Canada et des États-Unis. Sûr, préparez-vous. Ouais.
Eh oui, préparez-vous au taffeta, les gars.
Ouf, ça va être dur.
Vous allez adorer ça.
Nous, on ira se réfugier à la ferme du Patouquet à Mirabel.
You're welcome.
Voilà, et on bouffera du lait de chèvre à longueur
de temps. Et des cabris.
Voilà.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste. Merci à Stéphane d'avoir réalisé cette émission.
Bravo, Stéphane.
À la prochaine. Salut.
Salut à tous.
Bon week-end.